Chapitre 4. Renaissance, humanisme et réforme, mutations culturelles et religieuses de l'Europe. Cours 1. L'humanisme, une nouvelle manière de penser l'homme, 15e-16e siècle. À partir du 15e siècle, la culture européenne connaît des transformations majeures. L'humanisme rompt avec le Moyen Âge et les savoirs nouveaux sont diffusés beaucoup plus largement grâce à l'imprimerie. A. Le retour aux sources antiques. Un mouvement né en Italie. Au XVe siècle, l'expression « studia humanitatis » ou « humanité » désigne l'étude des langues anciennes, l'hébreu, le grec et le latin. L'humanisme consiste à chercher des modèles de sagesse dans les textes de l'Antiquité. Au XIVe siècle déjà, des intellectuels italiens comme Pétrarque, 1307-1374, reviennent aux auteurs de l'Antiquité. Ceux-ci sont aussi redécouverts grâce aux savants byzantins qui émigrent en Occident pour fuir les Turcs, prise de Constantinople en 1453. Au XVIe siècle, l'humanisme se diffuse dans toute l'Europe occidentale. L'esprit critique contre l'université. Les humanistes remettent en cause les universités qui, sous l'autorité de l'Église, ont le monopole de l'enseignement depuis le XIIIe siècle. L'enseignement universitaire est fondé sur les commentaires de la Bible et d'Aristote par les docteurs en théologie. L'humanisme, lui, prône l'étude et la critique des textes originaux. Ainsi, en étudiant le latin, Lorenzo Valla, 1407-1457, montre que la donation de Constantin, source officielle du pouvoir des États du pape, est un faux créé au Moyen Âge. D'autres humanistes veulent revenir aux textes originaux de la Bible, ce qui menace la Vulgate. B. La foi en l'homme. Le rôle de l'éducation. Les humanistes sont convaincus que l'homme s'améliore par l'instruction. De nouvelles structures d'enseignement voient le jour. Ainsi, sur le modèle antique de l'Académie de Platon, des académies sont créées. La première est celle de Careggi, près de Florence, en Italie, fondée en 1462 par l'humaniste Marsile Ficine. En France, à l'initiative de l'humaniste Guillaume Budet, le roi François Ier ordonne la création d'un collège royal, actuel Collège de France, dont l'objectif est d'enseigner des disciplines que l'université ignore, comme les langues anciennes, l'arabe ou l'éloquence latine. Dans un système scolaire réservé aux hommes, les humanistes prônent l'instruction des femmes. L'homme au centre du monde. Sans remettre en question la place de Dieu dans l'univers, l'humanisme met l'homme au centre des savoirs. L'homme n'est plus seulement un être qui a commis des péchés et qu'il faut punir, mais il devient un être plein de promesses. Les humanistes exaltent les capacités de l'homme à faire preuve d'esprit critique et à exercer son libre arbitre, c'est-à-dire à décider par lui-même. Les débuts de la science. Dépassant parfois les seules sources antiques, les humanistes expliquent aussi le monde par l'expérimentation. André Vézal fait progresser la connaissance du corps en pratiquant la dissection. Nicolas Copernic est le premier à théoriser un nouveau système astronomique qui place le Soleil au centre de l'univers, c'est l'héliocentrisme. C'est la révolution du livre imprimé. Les caractères mobiles d'imprimerie. Au début du XVe siècle, la gravure sur métal et la gravure sur bois, ou xylographie, se généralisent. En 1450, à Mayence, Gutenberg réalise des caractères mobiles en métal qui, juxtaposés, forment un texte. En pressant une feuille de papier sur ces caractères préalablement recouverts d'encre, il invente l'imprimerie. La République des lettres. Partout en Europe, les humanistes comme Erasme, 1467-1536, entretiennent des relations étroites en s'écrivant, en se rendant visite et en utilisant le latin comme langue commune. L'imprimerie diffuse rapidement leurs idées et leur donne le sentiment d'appartenir à une même communauté d'érudits. La diffusion de la culture. Entre 1450 et 1500, l'imprimerie permet de publier plus de 35 000 titres différents. Les auteurs antiques sont très prisés par les humanistes, puis, à partir des années 1520, le public découvre des auteurs nouveaux qui écrivent en langue vernaculaire. Durant le XVIe siècle, se développent aussi des feuilles volantes imprimées contenant chansons ou discours politiques.